Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Cette semaine, je suis avec Étienne Côté-Paluc, qui est un journaliste indépendant qui est basé à Port-au-Prince et qui nous rejoint d'ailleurs de Port-au-Prince aujourd'hui. Bonjour Étienne.
Bonjour Émilie.
Ça fait vraiment plaisir que tu te joignes à nous parce que ça faisait longtemps qu'à l'émission, on regarde, on suit bien sûr la situation qui se passe en Haïti, puis on avait envie d'avoir quelqu'un qui soit là-bas pour nous en parler. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans un premier temps. D'abord, discuter de ce qui se passe dans la capitale, à Port-au-Prince, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, peut-être parler de manière plus générale de ta situation comme journaliste canadien à l'étranger et de la situation des journalistes canadiens à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que même le métier est encore possible?
Oui.
Ça, mais c'est du bruit de fond, à la limite, ça amène les gens dans l'ambiance. On
va sûrement entendre des chars, des motos.
Oui, c'est ça. Des fois, je sais pas s'il y a un coq qui...
Oui, ça m'arrive tellement, ça m'est arrivé tellement souvent, c'est comme un espèce de running gag maintenant.
Oui, c'est ça. Puis il y a genre des cabrites, puis comme...
Exactement.
Étienne, commençons par la base. Tu es en Haïti en ce moment, à Port-au-Prince, dans la capitale. Dans quel quartier est-ce que tu es?
Je suis dans un quartier, un grand quartier qui s'appelle Turgeot, Canapé Vert, pas loin du centre de la ville. En fait, une des dernières poches de résistance près du centre de Port-au-Prince.
Comment ça se passe en ce moment?
Pour l'instant, cette semaine, c'était plus ou moins calme. Lundi, il y a eu plusieurs tirs, surtout autour de l'ancien site du Palais national, ce qu'on entend, c'était à quelques coins de rue d'ici. Mm-hmm. Donc, ce qu'on entend très bien et qui est toujours très inquiétant. Mais depuis, c'est ici, aux alentours, c'est plus calme. Par contre, il y a d'autres zones de la capitale qui ont été attaquées dans les derniers jours. Mais la police semble répliquer et font des efforts en ce moment, semble-t-il, pour un jour peut-être sécuriser l'aéroport et reprendre les vols.
Parce que, mettons un peu les gens en contexte, c'est pas tout le monde qui suit cette situation-là de près. Ça va faire un mois ou ça fait un mois que le premier ministre Ariel Henry a démissionné ou a été démissionné selon la perspective.
Il a annoncé sa démission. Il est toujours en poste. C'est donc un gouvernement démissionnaire.
Gouvernement démissionnaire. Merci pour le vocabulaire. C'est très confus pour les gens. Est-ce que l'homme a une autorité réelle encore? C'est pas clair.
Mais il est en Californie, semble-t-il, en plus.
C'est ça. Il est même pas en Haïti. Donc, il y a ça. Il y a tous les pays occidentaux qui sont en train d'offrir au moins la possibilité d'évacuation à leurs ressortissants. Les ambassades ont évacué en bonne partie leur personnel non essentiel. Pourquoi? Parce que dans la capitale de Port-au-Prince, et là tu viens nous dire, il reste des poches de résistance, mais les gangs sont en contrôle de la majorité de la grande région, de la région de Port-au-Prince. Les hôpitaux sont fermés, les écoles sont fermées, il y a des prisons qui ont été prises d'assaut par les gangs, qui ont été vidées, les principales prisons du pays. Les centres de police, de centres de contrôle de police, il y en a plusieurs qui ont été attaqués aussi et pris.
Les commissariats, oui.
Les commissariats de police. Il y a des lieux culturels symboliques aussi qui sont attaqués. La semaine dernière, c'était par exemple la bibliothèque, donc les archives nationales, tout ce qui est l'histoire d'Haïti, même les institutions culturelles qui sont aussi parfois pillés, attaqués. Donc, il y a un ensemble de choses qui se passent. Je t'ai demandé comment ça se passe pour toi sur le terrain, comment ça se passe pour les gens en ce moment, le quotidien dans la capitale à Port-au-Prince.
C'est le désespoir presque complet. On voit pas vraiment la fin de tous ces problèmes parce que ici, la majorité des gens vivent au jour le jour et ont besoin de faire leur petit commerce dans la journée pour nourrir leur famille le soir, par exemple. C'est juste des problèmes de base. On parle même pas des gens déplacés, parce qu'il y en a des milliers, plus de 50 000 qui sont partis en région juste dans le mois de mars à cause de ce qui se passe en ce moment à Port-au-Prince. Mais donc, juste pour parler les gens qui sont pas au milieu de tout ça, donc tous ces gens-là qui, en ce moment, sont le plus désespérés parce que ils arrivent pas à nourrir, finalement, les gens qu'ils aiment. Donc, c'est vraiment triste, surtout pour ceux qui ont pas d'argent en ce moment en Haïti, parce que c'est eux qui souffrent le plus de tout ce qui se passe. Les prix ont explosé, l'essence commence à se faire rare, les stations-service ferment une après l'autre, et il faut acheter l'essence au gaz à un prix souvent doublé, donc il commence à avoir des pénuries de certains aliments et même des pénuries de médicaments. Il y a beaucoup de centres de santé qui ont fermé. Donc c'est tout le monde est un peu inquiet à savoir où est-ce qu'on s'en va. La police est essoufflée, à bout de bras, et donc on ne sait pas trop qu'est-ce que sera la suite. Tout le monde ici se demande qu'est-ce que sera la suite, comment on peut résoudre le problème et comment on peut avancer dans un pays où surtout autour de la capitale, où tout est bloqué, tout est pris par ces groupes criminels armés-là qui ont envahi zone après zone depuis 3 ans, 4 ans. C'est le même scénario. Et là, on voit un nouvel essor depuis un mois. Mais déjà, à l'automne dernier, il y avait un quartier avec des dizaines de milliers de personnes qui ont été obligées de quitter parce que un nouveau groupe armé a décidé de l'envahir et de mettre le feu à pleine maison et de menacer les gens qui y habitaient. Donc, c'est comme l'aboutissement de plusieurs mois, de plusieurs années même d'insécurité dans la capitale qui se s'est vraiment accrue. Port-au-Prince, c'est pas une ville si dangereuse que ça auparavant. Surtout, jusqu'à 5-6 ans, mais on pouvait sortir au Champ de Mars jusqu'à 3-4 heures du matin. Il y avait toujours de la bouffe. 24 heures sur 24, il y avait des marchands. On pouvait marcher dans les rues. Le plus grand danger, c'était les vols. Si tu te promenais dans la rue, c'est-à-dire que tu pouvais te faire voler ton téléphone, mais c'était à peu près tout. Maintenant, on est dans une autre situation complètement. Les kidnappings ont explosé pour rançon, donc pour financer les groupes armés. Et tous les autres actes dont on a parlé, là, d'attaque de différentes institutions, de différents quartiers. Donc, les gens se regroupent, qui sont obligés de fuir leur quartier, se regroupent chez des proches, essaient de louer d'autres maisons, quittent la ville. Mais tout le monde ici sait que est en train de faire un deuil un peu de Port-au-Prince. En tout cas, t'as tout le moins du centre-ville. L'espoir n'est pas très élevé en ce moment parmi la population.
Continuons dans le concret comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de Port-au-Prince en termes de son accès à une éducation?
C'est une très bonne question qui turlupine beaucoup les parents ici. Depuis un mois et demi, il n'y a plus d'école presque partout dans la ville. Il y en avait beaucoup qui avaient commencé à faire de l'école à distance, mais depuis septembre, la majorité des écoles dans la ville de Port-au-Prince ont littéralement fermé. Il y a les lycées publics, des institutions, mais deux grands lycées publics, les deux plus grands de Port-au-Prince, qui ont été envahis par des réfugiés qui dorment jour et nuit. Dans ces deux lycées-là, il y a à peu près 10 000 personnes qui dorment là, qui sont réfugiés de Carrefour-Feuille. Ça, c'est qu'une parcelle des gens qui ont été forcés de quitter Carrefour-Feuille à l'automne dernier, qui est le grand arrondissement là, dont je vous parlais. Les autres, la plupart, sont soit allés en région, trouver des proches, ou dans d'autres quartiers de la ville. Donc, c'est vraiment ceux qui avaient aucun moyen, aucune ressource. Et comme les entrées et sorties de la ville par la route sont en grande partie contrôlées par ces groupes criminels-là, c'est difficile aussi pour certains juste de penser même sortir de la ville. Donc, ça rend les choses extrêmement compliquées en ce moment dans le pays.
Ça m'amène au deuxième point concret que je voulais aborder, la question du transport. Ça fait longtemps que les autoroutes, les voies d'accès principales pour sortir de Port-au-Prince sont entre autres contrôlées par les gangs. Pour les gens qui veulent quitter, parce que ce que tu t'es en train de décrire, c'est une crise de réfugiés internes, essentiellement. Peut-être qu'on avait vu, bien sûr, avec le tremblement de terre à Port-au-Prince en 2010, mais c'est ce qui est en train de se retrouver. Comment est-ce que les gens qui peuvent pas se payer des hélicoptères quittent la capitale?
Bon, il y a des moyens, mais c'est à ses propres risques et périls. Et c'est ça qui fait que pour les standards, si on veut, pour les plus élevés, pour les étrangers, ça devient encore plus compliqué pour eux. Donc, il y a une route, il y a deux grands axes à Port-au-Prince qui est face à la mer, une vers le sud, une vers le nord. Mm-hmm. Et c'est ces deux zones-là qui sont contrôlées par plus différents groupes, qui sont sur différents territoires le long de la route.
Ce que j'appellerais de manière créative des postes de péage.
Un peu partout. Oui, non, c'est littéralement ça, c'est des postes c'est de péage de fortune, mais c'est des postes de péage quand même, où ils rançonnent les gens qui circulent. C'est des routes nationales. Donc, je prends l'exemple de la route vers le sud. Ce matin encore, justement, je parlais avec un chauffeur que je connais très bien qui fait cette route-là et qui a repris dernièrement la route. Il m'expliquait que pour sortir de Port-au-Prince, il y a 4 postes de péage de fortune en ce moment par différents groupes criminels. Donc, lui, quand il passe, là, ben, à chaque fois, il faut qu'il donne de l'argent pour pouvoir être sûr de rentrer à Port-au-Prince. Donc, ça fait qu'il doit monter les prix pour les transports. Et à la fin de la journée, souvent, il lui reste presque rien parce qu'il loue le véhicule. Il doit payer une cote aussi à la mairie, à Jacmel. Et après ça, ben, il faut payer 4 fois encore des bandits, hein, comme on les appelle ici, qui sont armés, qui sont sur le bord de la route et qui exigent des fonds de la part des gens qui passent.
Je pense que c'est important pour les gens de comprendre ça parce que ce qui est en train de se passer, ben, c'est très, très, très violent. Et on peut parler aussi de la violence, mais c'est un système d'économie parallèle. Dans un sens, lorsque les gangs prennent le contrôle du port, c'est aussi prendre le contrôle des denrées qui arrivent au pays et les redistribuer en fonction de leur propre système de valeur, leur propre système économique. La même chose pour le carburant, ce qui a un gros impact sur le prix du transport. L'autre question que je voulais aborder avec toi, c'est la raison pour laquelle les hôpitaux ont fermé, parce que justement, cette question-là de qui a de la valeur dans une économie du kidnapping, c'est aussi que les médecins, le personnel soignant a tellement de valeur dans ce système-là, justement parce qu'il y a tellement de violence, que les médecins, les docteurs et même les infirmiers étaient des cibles de kidnapping assez évident. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé qui a forcé la plupart des centres de santé de la capitale à fermer?
Bon, c'est sûr que la menace du kidnapping est très, très importante. Il y a eu des docteurs qui ont déjà été kidnappés, entre autres le fils du célèbre docteur Pape, qui est aussi dans le système de, qui travaille aussi dans le système de santé, qui a été libéré le mois dernier. Dans les dernières semaines, par contre, il y a moins de kidnapping depuis un mois, parce que il y a les attaques, il y a eu 2 ou 3 kidnappings quand même qui ont été rapportés, mais beaucoup moins parce que il y a eu les attaques en question. Le centre-ville est entièrement occupé par les groupes armés en ce moment.
Quand tu dis les attaques en question, tu parles des commissariats de police, les prisons et l'aéroport de Port-au-Prince même.
Exactement, l'aéroport, le commissariat, les prisons, comme tu as mentionné au début, et d'autres endroits symboliques autour de la ville. Donc là, ils ont un peu arrêté. Il y avait une tentative de convaincre le reste de la population que leurs actions étaient pour le bien public. Donc, ils ont comme une tendance à vouloir bien paraître et à arrêter un peu ces actes qui font la colère de beaucoup de gens quand ça se produit, surtout les voisins, les amis des personnes concernées. Donc, en ce moment, depuis un mois et demi, ce qui a forcé la fermeture de plusieurs centres de santé, c'est ces attaques-là. C'était déjà un peu pas trop recommandable à certains endroits. Il y avait déjà des zones plus dangereuses dans le centre-ville, mais il y avait encore de l'activité, il y avait encore des marchands, il y avait encore des commerçants. Et maintenant, depuis les attaques du mois dernier qui ont commencé, ben tous ces marchands-là sont partis. Donc, tout le monde est un peu inquiet. On voit ça un peu de loin, mais c'est devenu des zones de non-droit où les gens n'osent pas trop circuler. Les rues sont vides, sont à l'abandon. Tout le centre-ville de Port-au-Prince, en ce moment, c'est comme ça. C'est un peu une règle de base de sécurité en Haïti. Si c'est vide, ne t'y aventure pas. Ça veut dire qu'il y a un problème.
Non, c'est ça. Si les gens sont jamais à Port-au-Prince, ce qu'il faut comprendre, c'est quand c'est tranquille que c'est dangereux.
Exactement. Quand c'est plein d'activité, on sait que tout va bien, que personne n'a peur et que tout le monde se normalement. Donc, mais là, en ce moment, c'est complètement vide.
Parlons de pourquoi c'est comme ça depuis un mois et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mois et demi, il y a un ensemble de causes qui ont accéléré la situation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2024 pour que la situation dégénère en ce sens-là? Quelles sont les principales causes?
Les causes, on pourrait remonter loin, mais...
Oui, peut-être parlons de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui avait été donc assassiné en juillet 2021.
C'est Ariel Henry qui a pris le pouvoir, un gouvernement intérim qui n'a pas été élu, qui n'a pas vraiment de légitimité politique, et dont la première promesse était de rétablir la sécurité dans le pays. Et deux ans et demi pratiquement après sa prise de pouvoir, il n'y a pas vraiment de grandes avancées qui ont été faites au niveau de la sécurité, autre que sa demande pour une aide internationale qui n'est toujours pas venue. Donc, ça laissait les gens depuis deux ans et demi à Port-au-Prince vraiment avec un sentiment, un goût amer. Et la colère contre ce gouvernement-là dans tout le pays a grandi dans les derniers mois, dans les dernières années, énormément à cause de ça. Et la grogne populaire contre Ariel Henry était devenue vraiment insupportable à un certain point. En février, il y a eu des grandes manifestations encore contre lui.
Oui.
Et là, finalement, les groupes célèbres ici au centre de Port-au-Prince, qui étaient historiquement jugés plutôt favorables au gouvernement, ont changé leur fusil d'épaule l'année dernière et se sont mis à militer contre le gouvernement activement. Donc, c'est cette frustration-là que les groupes criminels se sont servis pour justifier leurs attaques, pour essayer d'amadouer aussi une partie de la population en tenant des discours qui se voulaient révolutionnaires, qui se disaient qu'ils travaillaient pour les gens les plus pauvres et qui demandaient justement la démission du gouvernement. En même temps, ce qui est arrivé, c'est que les Américains qui tenaient à bout de bras le gouvernement au pouvoir depuis deux ans et demi ont décidé de lâcher Ariel Henry alors qu'il était à l'extérieur du pays pour signer l'entente de coopération pour l'aide de sécurité.
Oui, il était à Nairobi, au Kenya.
Voilà. Et donc, les Américains ont décidé de lâcher à ce moment-là. Ils disent non, tu ne t'aideras pas pour rentrer en Haïti, alors que les groupes criminels avaient commencé à envahir l'aéroport et d'autres endroits. Il manquait un hélicoptère pour se rendre à quelque part dans le pays. Mais les Américains ont refusé, c'est pas arrivé. Et on a compris que ceux-ci arrêtaient de l'appuyer. C'est eux qui vraiment le gardaient au pouvoir. C'était son seul et dernier appui, pas mal, c'est la communauté internationale au gouvernement actuel. Et donc, il a été obligé finalement d'annoncer sa démission pour amener un nouveau gouvernement de transition. Et donc, ces groupes-là ont eu finalement ce qu'ils voulaient et se retrouvent aujourd'hui un peu dans une impasse parce qu'ils ont attaqué, ils ont aussi réussi à libérer plus de 4000 prisonniers, dont la grande majorité probablement sont allés y rejoindre leur rang. Et après ça, ils se retrouvent dans une impasse parce que ils ont plus de... qu'est-ce qu'ils peuvent demander, sinon continuer à démolir le pays, continuer à prendre d'autres quartiers, puis après ça, s'amener la fureur des gens, parce qu'il y a un gros mouvement populaire d'autodéfense des quartiers qui sont encore libres, des villes qui sont encore libres dans le pays. Je donne pas cher de la peau d'un de ces chefs de groupe armé-là s'il sort de du quartier duquel il contrôle, parce que il y a une frustration contre ces groupes-là, parce que ils empêchent tout le monde de vivre. Il y a presque plus d'un million de personnes qui sont maintenant sur le point en famine, en situation de famine, selon le Programme alimentaire mondial. Donc, c'est tout ça, c'est à cause de cette insécurité qui a amené la dégringolade de l'économie depuis presque 5 ans.
Merci pour le survol de dégringolade de 2024. Je pense que c'est important pour les gens de comprendre. Tu as touché sur plusieurs points. La première chose, c'est le rôle des puissances internationales. J'entends énormément de critiques ici dans la diaspora, comme si, essentiellement, en appuyant le gouvernement d'Ariel Henry à la suite de la mort de Jovenel Moïse, donc Ariel Henry qui est venu le remplacer, que les gens dans la société civile haïtienne voulaient déjà essentiellement un gouvernement de transition et que la critique principale que j'entends, c'est qu'en maintenant Ariel Henry au pouvoir, les États-Unis, le Canada, la France ont essentiellement fait perdre 30 mois à Haïti. Est-ce que tu sens aussi sur le terrain cette frustration-là, non seulement envers Ariel Henry, mais envers les gens à l'international qui ont maintenu Ariel Henry durant les deux ans et quelques depuis la mort de Jovenel Moïse?
Bon, je pense qu'il y a quand même un préjugé favorable par rapport à l'international dans le pays, mais les gens sont pas non plus aveugles de ce qui se passe. Il n'y a pas une frustration où ils sont... il y a des manifestations qu'on voit, mais il y a une frustration à savoir ce qui s'est passé, en connaissance de cause, disons ça comme ça. Les gens sont pas dupes, ils voient bien ce qui s'est passé, et c'est vrai en grande partie, en tout cas selon mon analyse, que c'est 30 mois qu'on a perdu finalement, mais et les gens ils l'ont bien vu et c'est répété souvent ici, mais en tout cas c'est clair que c'était de l'incompétence, si vous me permettez l'expression, de la part de la communauté nationale, en particulier de Washington. C'est un peu eux qui tirent un peu toutes les ficelles, parce que au début, je me souviens, il y avait des gens qui disaient oui, ça paraît un gouvernement du non national, entre autres l'accord du Montana qui disait ça, prend un gouvernement de transition qui est plus légitime et tout, et se faisait répondre par Washington. Ah, on veut pas une transition après une transition, on peut pas avoir deux transitions, ça a pas de sens. Aujourd'hui, ah, tout d'un coup, ça prend une nouvelle transition plus légitime. Donc, c'est là où on sent qu'il y a une erreur assez grave de la part de la communauté internationale, d'après moi, d'avoir appuyé comme ça ce gouvernement-là. Mais, et pour expliquer la chose, c'est qu'il faisait des réformes qui étaient vraiment encouragées par la communauté nationale, des réformes qui avaient pas rapport avec la sécurité, ce qui est, d'après moi, plus ou moins éthique, disons-le, et des réformes qui, pour les douanes, des réformes pour l'éducation, des réformes...
Pour le résumer, simplement, des choses qui étaient déconnectées des priorités de la population.
Effectivement, c'était un retour à l'équilibre budgétaire, des choses qui faisaient plaisir au FMI, qui ont continué à prêter de l'argent. Donc, on répond encore aux mêmes exigences budgétaires, si on veut, les exigences néolibérales, si on, en quelque sorte. Et là, ça fait 30 mois qu'on attendait des réformes de sécurité, des grands chantiers pour la sécurité en Haïti, des experts internationaux pour venir nous aider à aider les policiers à prendre des décisions sur les plans d'action et tout ça. Donc, c'est vraiment du temps perdu pour les Haïtiens.
Je comprends. La deuxième chose que tu as abordée, que je pense que c'est très important de revenir, la manière dont les gangs sont perçus par la population, les poches de résistance populaires, le mouvement, notamment le mouvement Bois-Calais qui s'est installé, où les gens essentiellement se sont constitués des milices pour répondre à la violence des gangs, puisqu'il y a énormément, je veux dire, il y a des morts partout et des viols aussi un peu partout. C'est très grave au niveau de sécurisation sécuritaire. D'un autre côté, il y a dans les médias étrangers une forme de... je veux dire, glamorisation des chefs de gang. Jimmy Cerisier, qui est l'un des principaux chefs de gang de Port-au-Prince.
Il est le visage du récent coup de force des gangs en Haïti. Jimmy Cerisier, alias Barbecue. Nous l'avions rencontré dans son fief 3 semaines avant qu'il ne parte à l'assaut du gouvernement.
Va lui parler. Dis-lui ce que je viens de te dire.
Barbecue. La légende veut qu'il brûle vivant ses ennemis. Cet ancien policier, devenu un des chefs de gang les plus puissants d'Haïti, est toujours escorté sur le qui-vive.
Parfois, des gens qui les présentent comme justement des révolutionnaires, des espèces de Robin des Bois. Quel impact crois-tu que cette glamorisation-là des chefs de gang dans les médias étrangers peut avoir sur la sécurité concrète de la population à Port-au-Prince?
C'est une bonne question qui est assez large. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une tentative par certains groupes de gangs de se présenter comme des groupes criminels armés, comme j'aime mieux les appeler. J'essaie d'éviter le mot gang, d'ailleurs on pourrait en parler plus tard.
Oui,
Pourquoi? Mais généralement, j'essaie de j'utilise, mais vraiment avec parcimonie en français, surtout pour le public nord-américain. En Haïti, en créole, c'est un mot qui est utilisé couramment, là, c'est employé beaucoup, mais il y a une autre connotation, évidemment, en Amérique du Nord. Donc.
C'est un excellent point sur les mots, effectivement, c'est le mot qu'on dit en créole, mais vu la situation nord-américaine, merci pour le point pour la terminologie, oui.
Ah, ben c'est un plaisir. Mais donc, ces groupes-là, ils essaient, comme je le disais tout à l'heure, de redorer leur image depuis un mois et demi. Ils appellent à une révolution, pour reprendre leurs mots. Et ils disent qu'ils sont là pour défendre les intérêts des gens les plus pauvres, des gens des quartiers d'où souvent ils sont issus. Ce qui est vrai en partie pour les gens de leur quartier, mais vraiment en partie. C'est-à-dire que les gens qui sont pas d'accord avec leur position dans leur propre quartier, ils sont partis, ça fait longtemps, ou ils ont connu un sort encore plus macabre. Donc, ils contrôlent ces zones-là et ils espèrent être perçus comme des leaders. Depuis toujours, les leaders de ces groupes armés-là essayaient de se présenter comme des leaders sociaux comment je pourrais dire, ce qui est en partie vrai, mais vraiment en partie. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que ici, quand t'as des moyens, c'est un peu culturel peut-être aussi, mais quand t'as des moyens ici, puis que t'habites dans une zone où il y a pas beaucoup de moyens, où t'as des contacts avec des gens qui ont moins de moyens, ben c'est normal de partager, c'est normal de payer l'école pour les enfants, c'est normal de, parce que souvent c'est privé, c'est normal de quand il y a des problèmes de santé, de donner un peu d'argent. Donc, il y a un esprit communautaire très ancré dans la société haïtienne qui est aussi présent quand on est chef armé d'un quartier. Mais en même temps, le reste du pays est pas dupe, en tout cas en grande partie. Il y a pas beaucoup de gens qui ont embarqué dans son idée de révolution. C'est un débat ici, mais généralement, le discours passe pas très bien parce que, évidemment, ils ont 3-5 ans d'histoire dans la cravate, où Port-au-Prince est bloqué, où le commerce est difficile, où tout est compliqué, tout devient plus cher. Et donc, le discours révolutionnaire actuel est pas extrêmement populaire. Et dans les milices d'autodéfense des différents quartiers encore libres de Port-au-Prince, il y a beaucoup de lynchages qui ont eu lieu, entre autres, dans le dernier mois, mais aussi depuis un an. Là, ça a commencé depuis un an, le mouvement Bois-Calais, comme on l'appelle ici. Et les gens soupçonnés d'appartenir ou d'informer les groupes criminels armés sont généralement assassiné sur place par une foule en colère. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. Le système de justice est complètement à plat et dysfonctionnel, ne marche plus. Les prisons sont vides, comme on l'a dit. Donc, la frustration est tellement immense envers le fait que la police n'est pas capable d'intervenir. Il y a une frustration vraiment, vraiment, vraiment extrême contre les groupes armés en ce moment dans le reste du pays, qui sont aussi souvent des endroits qui sont pas nécessairement très riches, c'est pas des gens avec les moyens là qui sont dans les foules en colère là. C'est vraiment des gens issus des quartiers populaires, mais en vivant la situation ici, tu finis par avoir une espèce de sympathie des fois aussi pour ces mouvements populaires là parce que c'est la dernière ligne qui te sépare d'attaques armées. Donc on ferme un peu les yeux souvent en disant bon ben on espère que cette personne-là le méritait de mourir quand on voit des gens qui ont été lynchés, mais c'est difficile d'aller vérifier après si c'était vraiment le cas.
C'est une bonne manière de terminer cette partie-là de la discussion, parce que tu nous as parlé d'énormément d'informations concrètes, tu nous as dessiné un beau portrait du quotidien, merci pour ça. Mais en fait, ce que ça soulève, c'est une réflexion effectivement sur je veux dire, quand tu es dans une situation comme celle-là, les règles éthiques de l'humanité, il y a parfois la situation désespérée amène des moyens désespérés. Ça nous remet en question dans notre compréhension d'énormément de choses lorsqu'on est à ce niveau-là extrême d'insécurité d'une grande partie de la population.
Mais l'éthique devient un luxe.
Oui, mais je... Oui, écoutez, justement, je pense qu'à partir de la vie à Port-au-Prince, il y a des traités philosophiques à écrire.
Oui, c'est clair.
Merci pour ça, Étienne.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Étienne, en milieu de segment de l'émission, on aime toujours prendre une pause pour réfléchir à un élément d'actualité autre qui a retenu dans notre attention. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
Ce qui me marque le plus, évidemment, dans les derniers mois, c'est la guerre qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, avec les milliers de morts qui s'accumulent jour après jour. C'est vraiment troublant, mais j'avoue franchement que j'ai arrêté des fois même de suivre les nouvelles au jour le jour parce que je trouvais ça trop difficile émotivement, en plus de la crise ici, d'avoir cette émotion-là qui venait, ça venait trop plein.
C'est intéressant que tu amènes la question de ce qui se passe à Gaza et en Israël en ce moment, alors que tu es à Port-au-Prince, tu dis l'énergie émotionnelle illimitée. Est-ce que autour de toi, les gens qui sont, on vient de le dire, les gens sont beaucoup en mode survie dans la capitale, est-ce que les gens ont de l'énergie pour regarder ce qui se passe à Gaza ou ailleurs dans le monde comme ça? Ou comment est-ce qu'on voit la crise à Gaza lorsqu'on est à Port-au-Prince?
Oui, on la voit. Oui, ça passe aussi dans les médias ici. Il y a des grandes nouvelles comme ça qui font les nouvelles ici aussi, surtout pour les gens, évidemment, qui suivent l'actualité. Il y a beaucoup de parallèles, toutes les questions d'impérialisme, toutes les questions de d'occupation, de tout ce qui est lié à la déshumanisation. Ça rappelle beaucoup l'histoire d'Haïti et ça rappelle aussi ce qui se passe ailleurs. Et c'est le reflet de toute une histoire de qui est plus grand que seulement l'histoire d'Haïti, l'histoire d'impérialisme et tout ça. Donc, il y a des clés quand même pour comprendre ce qui se passe ailleurs dans la politique haïtienne.
Merci pour ça, c'est bien noté.
Toi, Émilie, qu'est-ce que t'aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
C'est un peu étrange parce que je suis à Ottawa en ce moment, exceptionnellement. Je viens de terminer d'animer un symposium à Rideau-Hall, organisé par la gouverneure générale, sur la violence en ligne. Parce que la gouverneure générale du Canada a tellement subi d'attaques, à la fois sexistes et racistes, notamment suite à sa nomination, qu'elle a dû limiter ses interactions en ligne. Et elle a décidé de faire de la question de la violence, de la discrimination en ligne, principalement à l'envers des femmes, mais de manière générale aussi, la clé de son mandat. Et là, je sors d'une rencontre avec essentiellement le All-Star de toutes les personnes au Canada qui se sont faites cibler récemment par la violence en ligne. Et j'avais envie de le prendre en note parce que c'est un problème de fond lorsqu'on fait de l'analyse des médias, de qu'est-ce que ça veut dire la démocratie, la prise de parole publique. Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le niveau de violence dont on vient de parler à Port-au-Prince. Mais cette manière-là dont les gens ont peur d'agir dans l'espace public ou de prendre la parole dans l'espace public, ça reste un problème qui, même ici au Canada, grandit. Et donc, je trouve ça vraiment fascinant qu'on soit rendu à Rideau-Hall à essayer de se demander qu'est-ce qu'on fait avec Meta et avec Twitter et avec la perte de contrôle essentiellement de notre agora public et la manière dont les trolls sont en train de prendre le dessus.
La modération, c'est les mêmes problèmes ici, puis souvent ils sont décuplés parce qu'il n'y a pas de modération dans des pays comme Haïti. Facebook, c'est peut-être le meilleur là, au niveau de la modération, mais ils n'ont presque pas d'équipe pour des pays comme Haïti, ils ne comprennent pas le créole, donc à peu près tout passe, des attaques des fois très viles, donc c'est toujours inquiétant, c'est un problème qui existe vraiment partout et qui concerne pas mal toute la population mondiale en ce moment. Bien noté.
Étienne, pendant que je t'ai... Écoute, t'es une créature assez rare ou un animal en voie de disparition, je trouve, parce que t'es un Canadien, un Québécois qui, comme journaliste... Ça fait combien de temps que t'es installé en Haïti?
14 ans, un peu plus que 14 ans.
C'est de plus en plus rare et c'est d'ailleurs probablement une des raisons pour laquelle t'es sollicité beaucoup. Tu travailles à la pige, notamment avec Radio-Canada, avec la presse, avec plusieurs médias ici au Canada, parce qu'il y a très peu de journalistes canadiens qui restent en Haïti, mais à l'étranger, de manière générale. J'ai envie de te poser la question, pourquoi? Mais peut-être c'est plus facile de te dire c'est quoi les défis qui de ton existence comme journaliste, pigiste, et ça va expliquer dans un sens pourquoi c'est difficile, pourquoi il n'y en a pas plus. Donc, c'est quoi les défis, Étienne, de ta situation comme journaliste pigiste à Port-au-Prince?
Il y a évidemment beaucoup de défis. Je pense que le premier, c'est une vocation à la base, c'est-à-dire que, comment je pourrais dire, j'ai choisi le pays avant de choisir le reste, c'est-à-dire que...
Oui, parce que t'es DJ aussi, c'est-à-dire t'es journaliste, mais tu fais tes activités à Port-au-Prince sont pas seulement... T'es aussi un passionné de musique, donc t'as choisi Haïti, puis t'as choisi aussi le journalisme.
Parce que, entre autres, la cause de la musique aussi, hein, c'est une des grandes raisons qui a fait que j'ai choisi Haïti, parce que je connais le pays aussi depuis que je suis tout petit, je venais assez régulièrement, je parlais déjà créole, je connaissais déjà Port-au-Prince, donc c'est ça qui m'a amené ici. Donc je suis tombé en amour avec la culture comme telle, mais les défis les plus difficiles, c'est vraiment le manque d'intérêt. C'est-à-dire que les médias étrangers sont très intéressés par le fait, ils trouvent ça donc extraordinaire que t'es là quand il y a une crise, quand il y a beaucoup de gens qui t'appellent, là, tout le monde, Haïti est sur le radar de tout le monde, donc là, ça fait plaisir de savoir qu'ils t'ont là et ils peuvent te commander des piges pas trop chères sur le terrain. En ce moment, il y a presque aucun autre journaliste étranger à Port-au-Prince que moi. Il y a eu CNN qui est venu, il y a Paris Match qui est venu 3-4 jours, mais ils sont tous repartis. Il y a personne qui est là pour suivre un peu ce qui se passe. C'est ça que c'était ça mon engagement. Mais en même temps, depuis un an, Haïti est un peu sorti du radar. Donc, faire seulement ça du journalisme international en Haïti, c'est très difficile parce que pendant ce temps-là, ben il y a personne qui parle d'ici. Une fois de temps en temps, on t'appelle. On s'en vient. J'accompagne beaucoup d'équipes de télévision qui viennent ici, par exemple, ou des journalistes en général. Ah oui, on s'en vient bientôt. Ah non, ben là, il y a eu la guerre à Gaza. Donc, il faut qu'on aille à Gaza plutôt. Fait qu'on parlera d'Haïti une autre fois. C'est-à-dire que s'il y a un événement qui prend plus de place, ben ils vont pas rajouter des pages à l'international. Ils vont juste diminuer le reste des infos qui passent. Donc, je dis rien contre Gaza, on s'entend. Mais quand un événement comme Gaza arrive, ben toute l'attention est tournée sur Gaza. C'est pour ça qu'on a lancé des magazines comme Haïti Magazine qui permet de partager un peu à notre guise les informations. On a lancé notre propre magazine avec un collectif ici en Haïti pour justement parler d'Haïti comme on veut, mais aussi permettre aux gens de contribuer comme ils veulent, d'avoir un financement plus régulier qui permet d'avancer.
Je voulais justement t'amener à parler du magazine, mais avant, je veux quand même souligner que c'est hallucinant dans un sens parce que tu parles du Moyen-Orient, ça n'a rien à voir avec Haïti. Je veux dire, c'est même pas le même continent, là. Donc, ce que tu es en train de dire de manière implicite, c'est que les médias occidentaux ont de l'énergie pour un pays à la fois, puis c'est tout. Essentiellement, c'est vraiment ça que tu es en train de dire.
Mais c'est qu'il y a vraiment de moins en moins d'équipes pour couvrir l'international dans les salles de rédaction. Souvent, ils doivent le faire à partir de leur salle de rédaction comme telle. Ils vont très peu de terrain. Donc, le peu de budget qu'ils ont pour aller sur le terrain, mais c'est pour couvrir la grosse crise qu'ils vont pouvoir mettre en une, dont tout le monde parle. Ça sera pas pour aller expliquer c'est pourquoi il y a un problème en Haïti en ce moment si il n'y a pas un palais national qui est attaqué ou une prison qui s'est faite évader. Mais tout ce qu'on, les cris d'alarme qu'on entend depuis des mois, ben, ça a mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Si on avait écouté les cris d'alarme plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas arrivé, on serait pas arrivé dans une situation comme on a là.
C'est très intéressant ce que tu fais comme collectif avec le magazine parce que ça nous permet notamment de se sortir du modèle traditionnel du correspondant à l'étranger qui est vraiment ancré sur essentiellement seulement les Occidentaux. Le collectif que tu as fondé, donc Haïti Magazine, c'est une collaboration avec les journalistes haïtiens natifs natal. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu as créé ça et la manière dont ça se passe?
En fait, le collectif s'appelle Daemon Info. C'est un nom inspiré d'un proverbe très connu en Haïti.
Ça veut dire derrière les montagnes, il y a d'autres montagnes. Donc, derrière les défis, il y a d'autres défis.
Exact.
Et on peut comprendre pourquoi c'est très populaire en Haïti quand on vient de comprendre la situation en Haïti.
Effectivement. Donc, il faut toujours avancer. Il y aura toujours des problèmes plus devant. Il faut continuer d'avancer. C'est un peu
oui,
ça que ça veut dire.
C'est ça.
Donc, Daemon Info, c'est donc un collectif qui existe depuis plusieurs années de manière informelle. On utilisait le hashtag depuis longtemps. Et c'est déjà qui collaborent avec moi. J'ai des collaborateurs, par exemple, dans le bas de la ville, à La Saline, à Cité Soleil, mais aussi à Jacmel et d'autres. Maintenant, on a élargi le cercle avec des collaborateurs qui travaillent pour des médias locaux, mais en région haïtienne. C'est des gens qui nous tiennent informés chaque semaine de ce qui se passe chez eux et qui permettent d'amener du contenu pour ce magazine, cette publication-là qui s'appelle Haïti Magazine et qui s'adresse principalement aux gens du Canada, du Québec. Il y a la version en anglais aussi, Haiti Weekly. Vraiment, c'est pour les gens à l'étranger, que ce soit la diaspora ou ceux qui n'ont pas de lien avec Haïti familial. Donc, c'est vraiment pour amener un regard un peu plus profond que ce qu'on voit habituellement. Aussi, parler comme on le veut. Puis, on a fait un choix très clair depuis le début de présenter en une des sujets qui sont toujours positif. Donc, c'est difficile à maintenir, mais c'est possible. On le fait chaque semaine. C'est sûr qu'on a des angles un peu plus socioculturels, souvent, mais même dans une crise comme cette semaine, on a eu un autre sujet sur, justement, les milices d'autodéfense. Même s'il y a des nouvelles très difficiles, parfois, qu'on partage dans le magazine, mais on essaie toujours d'avoir un regard un peu différent parce qu'on s'adresse aux gens à l'étranger, puis on essaie de changer un peu le narratif sur Haïti, qui adore les pneus en feu et les oui. manifestations qu'on voit en boucle dans les chaînes d'information. Donc, on montre aussi que le reste du pays on montre la complexité. C'est dans le but aussi d'humaniser le pays. Donc, de parler de ce qui se passe à La Saline, de parler de ce qui se passe à Cité-Soleil, les gros problèmes de groupes criminels et tout ça, mais aussi de parler quand il y a des fêtes, quand il y a une paix qui est engagée entre différents groupes armés, quand il y a des... Donc, d'être là aussi pour tous les autres aspects de la vie et de parler à toutes les semaines de ce qui se passe d'une manière un peu différente.
Très intéressant. Peut-être en terminant, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les conditions, je veux dire, d'abord sécuritaires, puis aussi la liberté de presse en Haïti, étant donné justement le contexte politique instable?
Bon, c'est extrêmement difficile. Hier, Martin, encore, je parlais à un journaliste, un collègue là, de la radio, puis du Nouvelliste, qui est en train de chercher une nouvelle maison pour sa famille parce qu'ils se font attaquer dans la zone où ils sont, en plaine, comme on les appelle ici, donc dans la banlieue nord. Et c'est la deuxième fois. Ils ont été obligés de déménager d'urgence en septembre dernier aussi à cause d'une situation similaire. Ils sont allés un peu plus loin. Finalement, ça s'arrange pas et ça les rejoint encore. Donc, en ce moment, ils essaient de trouver un autre endroit pour reloger toute sa famille. En septembre, quand il avait quitté sa maison, il avait été obligé de tout laisser, sauf un sac à dos. Il avait mis quelques vêtements et puis il était parti. Donc, c'est vraiment compliqué juste parce que la plupart des journalistes sont aussi des citoyens qui vivent dans la ville. Mais c'est doublement compliqué aussi parce que les zones contrôlées par les groupes criminels armés sont des zones souvent où la liberté de presse est extrêmement limitée. Il faut que tu sois perçu du bon côté par les hommes armés qui contrôlent la zone avant de pouvoir y faire des enquêtes. Donc souvent, par exemple, on l'a vu, quand il y a des entrevues avec des chefs de groupes armés, ben il faut que tu y ailles en montrant patte blanche et il faut que tu fasses des ententes avec eux à l'avance. Souvent même il y a de l'argent qui est distribué pour qu'ils acceptent de faire l'entrevue. Tu peux pas être trop critique quand tu habites dans ces quartiers-là. Donc aller couvrir les massacres, aller couvrir les fusillades, c'est très compliqué pour les journalistes sur le terrain parce que de te déplacer dans la ville, c'est ça qui est devenu le plus dangereux en ce moment. Quand on reste chez soi, on est plus ou moins en contrôle. Il y a eu quelques quartiers résidentiels attaqués, mais pas beaucoup dans les dernières semaines. Donc on attend de voir comment ça se passe, mais prendre les rues, aller sur le terrain. Je me souviens, on est allé à la prison une fois qu'elle a été abandonné par la police 2 jours après l'attaque et qui avait permis la libération forcée des prisonniers, ben, tu sais, c'était une zone de no man's land. Il y avait 2-3 commerçants qui vidaient leur commerce, mais il n'y avait plus un policier sur place. C'était vraiment inquiétant. Donc, j'avais pas de gilet pare-balles, j'ai pas de casque, j'attends des subventions. T'sais, c'est compliqué. J'étais avec d'autres journalistes qui avaient tout leur équipement. Là, tu te dis, OK, bon, comment je vais me payer? Je vais me trouver 1 000-2 000 $ pour trouver de l'équipement pour moi. Puis la personne qui m'accompagne, parce que je veux pas me mettre de l'équipement sur moi, puis oui. pas l'avoir pour les autres qui sont avec moi. Donc, c'est demander des subventions, c'est compliqué, là, ça fait des mois qu'on attend d'avoir ça. Donc, c'est tout ça qui est de la gestion, qui est compliqué pour les journalistes ici, mais c'est tout ça qui devient compliqué, les déplacements. Puis souvent, maintenant, les journalistes, ce qui se passe, c'est que c'est les jeunes qui restent encore, qui prennent les rues, parce que ceux avec des familles, ceux, ils ont trop peur, ils osent plus entrer, se rendre dans des endroits. Et donc, c'est aussi tout ça qui amène comme conséquence. Il y a beaucoup de journalistes qui sont partis à l'étranger après des menaces, mais aussi parce qu'ils avaient peur pour leur propre sécurité et celle de leur famille, en général comme habitants de la ville.
Merci beaucoup, Étienne. C'est tout pour Détour pour cette semaine. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand et m'envoyer un courriel aussi à emily@canadaland.com. Étienne, les gens peuvent te trouver sur IT Magazine.
Oui, itmagazine.ca. Venez nous suivre et vous abonner.
Si les gens veulent te suivre aussi personnellement sur les réseaux sociaux, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
Étienne CP sur Twitter. Je suis très actif. Sinon, ben X, nouvellement X. Et il y a une grosse communauté haïtienne sur X. Mais aussi Facebook, Instagram, @EtienneCP.
Vous pouvez écouter les nouveaux épisodes de Détour à chaque 2 semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Tristan Capacchione. Le coordinateur de la production est André Proux. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime.